racisme, et c'est évidemment la suite logique, puisque ça devait être fait initialement en une fois, de marxisme et positivisme. C'est-à-dire que je me situe exactement dans la même problématique, et il y a un certain nombre de choses, de critiques du positivisme, par exemple, qui peuvent s'appliquer aussi au structuralisme, que je ne reprendrai pas en détail. Alors, le structuralisme, en introduction, on peut dire que c'est assez difficile à expliquer parce que ça recouvre une variété très considérable d'idéologies finalement très diverses, si bien que la réponse à la question « qu'est-ce que le structuralisme ?», ce n'est pas d'une simplicité évidente à fournir. Cependant, on est bien obligé de parler du structuralisme au sens large, au sens vague, parce que cette difficulté à cerner le structuralisme doit être surmontée. Il existe en effet incontestablement une idéologie structuraliste, malgré les variétés internes qui la recouvrent, de même qu'il a existé une idéologie positiviste au sens large à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, même si le courant scientiste de cette période était lui-même assez varié. La mode structuraliste des années 65-66, par exemple, atteste bien que, malgré ces variétés, il existe une idéologie structuraliste. C'est une idéologie historique qui constitue un fait social, même si chaque penseur structuraliste individuellement ne se reconnaît jamais dans cette mode. Alors on peut dire que le structuralisme est en même temps, à la fois, une idéologie scientiste et une idéologie savante. C'est une idéologie scientiste parce qu'elle prétend se fonder sur l'état des sciences positives. Elle résulte d'une tentative de généralisation, d'une synthèse, des divers usages du concept de structure qui sont le fait de très diverses pratiques scientifiques modernes, aussi bien en mathématiques, en logique, en physique, en biologie, en psychologie que dans les sciences sociales. Elle se prétend d'ailleurs elle-même, en règle générale, scientifique. Mais cette idéologie scientiste est en même temps une idéologie savante, ou plus exactement, elle est restée très longtemps une idéologie savante. Elle n'est devenue une philosophie au sens propre du terme qu'en 1966, en particulier avec la publication de l'ouvrage de Michel Foucault, Les mots et les choses, et celui de Lacan, Écrit. À partir de ce moment-là, ce n'est plus simplement une idéologie de savants, c'est une philosophie de la mort de l'homme, où le sujet humain devient le simple support de la structure, et l'histoire, une succession purement aléatoire de formes. Auparavant, avant cette date, on peut dire que le structuralisme, c'était plutôt une épistémologie, une méthodologie des sciences, élaborée directement par les praticiens de diverses disciplines scientifiques. Mais ça ne simplifie pas du tout notre problème. Bien au contraire. Parce qu'il est très difficile de distinguer dans une pratique scientifique réelle, et en particulier en ce qui relève de sa méthodologie, n'est-ce pas, ce qui est purement scientifique et ce qui est idéologique. Il n'y a jamais, dans les théories sur la méthode d'une science, quelque chose qui est purement scientifique et délivré de toute tendance idéologique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une idéologie est savante qu'elle est purement scientifique, elle est également idéologique. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Alors ce qui nous retiendra ici essentiellement, c'est le structuralisme dans les sciences sociales. C'est d'ailleurs le succès du structuralisme dans les sciences sociales qui a été à l'origine de la naissance d'une idéologie structuraliste en tant que phénomène social, historique, en tant que mode, déterminante, voire dominante, très vite d'ailleurs exploitée par les philosophes professionnels. Alors ce qui nous retiendra aussi, et même surtout, ce sont les tentatives de structuralisation du marxisme, tentatives qui est devenue également une mode à partir de 1965-1966, moment où sortent les deux principaux ouvrages de Louis Althusser, Pour Marx et lire le Capital, qui font un succès de librairie. Il faut noter tout de même qu'il y a plusieurs points sur lesquels la critique qu'on peut faire du structuralisme doit se distinguer de la critique qu'on a faite du positivisme. On avait dit que le positivisme était né des sciences sociales positives bourgeoises du début du siècle et de la fin du 19e, et que les théoriciens de ces sciences sociales ne développaient que des idéologies vulgaires, c'est-à-dire que ces idéologies n'avaient pas servi à faire progresser la connaissance réelle des sociétés, mais qu'elles avaient essentiellement servi de justification, d'apologie de la société existante. En ce sens, on pouvait dire qu'il s'agissait d'idéologie vulgaire. On ne peut certainement pas en dire autant du structuralisme dans les sciences sociales. Si je pense pour ma part qu'il faut critiquer l'idéologie structuraliste du point de vue du marxisme et de la lutte des classes, il me paraît cependant que l'idéologie structuraliste n'est pas une idéologie vulgaire. Les travaux de Lévi-Strauss sur les structures élémentaires de la parenté ou sur les mythes, par exemple, ont fait considérablement progresser les connaissances réelles en ethnologie. De même, le structuralisme est né, s'est élaboré en même temps que la fondation d'une nouvelle science, la linguistique. Et par conséquent, on ne peut pas dire que le structuralisme linguistique est une idéologie vulgaire. Il y a un aspect idéologique, mais en même temps, cet aspect accompagne la fondation d'une véritable science. Autrement dit, s'il faut faire une critique du structuralisme, il faut la faire à la façon de Marx, à la façon dont Marx avait fait la critique de l'économie politique classique anglaise, à la différence de l'économie politique vulgaire, ou à la façon dont Marx avait fait la critique de la dialectique hegelienne. C'est-à-dire que notre critique, elle doit s'approprier, ou tenter de s'approprier, le noyau rationnel du structuralisme en critiquant ses aspects idéologiques. Alors cette appropriation critique, elle n'est vraiment pas facile à réaliser, dans la mesure où, dans le même temps, il est nécessaire de lutter, et impitoyablement, contre le structuralisme en tant que mode idéologique bourgeoise. Comme je vous l'ai dit, depuis 65-66, le structuralisme, ce n'est plus seulement une épistémologie de savants, c'est aussi une idéologie bourgeoise vulgaire opposée au marxisme dans la société bourgeoise moderne, une idéologie liée à la technocratie, en gros. La pénétration du structuralisme dans le marxisme suppose également une critique assez fine. Marx lui-même utilisait le concept de structure. D'autre part, chez les althusseriens, comme chez Godelier, qui sont les deux grands principaux théoriciens structuralo-marxistes, bien la tentative de structuralisation du marxisme coïncide avec une entreprise critique qu'il était tout à fait nécessaire d'entreprendre à cette époque contre les transformations du marxisme en simple brouet idéologique droitier. L'aspiration à la recherche théorique rigoureuse et même à un retour à Marx caractérise ce courant et il constitue en lui-même un fait éminemment positif, même si par ailleurs, dans le même temps, on peut déplorer dans ce courant la résurgence du scientisme, le rejet du noyau rationnel de la dialectique hegelienne, et chez les althusseriens, une critique beaucoup trop superficielle, voire dogmatique, du stalinisme. À cet égard, c'est-à-dire sur la question des althusseriens, je signale que je ne retiendrai que les ouvrages où Althusser se livre à un flirt ouvert avec le structuralisme, ouvrage qu'il a depuis tenté de corriger. C'est-à-dire que je parlerai essentiellement de Pour Marx et de lire le Capital, et je ne parlerai pas des corrections. Ça ne signifie pas pour autant que ces corrections me paraissent satisfaisantes. Dans une première partie, on va essayer de répondre quand même à la question qu'est-ce que le structuralisme? Et d'abord, on va essayer de donner une définition générale, malgré la difficulté de l'entreprise. Disons qu'une structure, c'est un seul, comprenez-vous, c'est pas si simple, c'est un système de transformation. Ce système comporte des lois en tant que système, par opposition aux propriétés des éléments qui composent ce système. Ce système se conserve ou s'enrichit par le jeu même de ses propres transformations. Autrement dit, les transformations du système n'aboutissent jamais en dehors des frontières du système, ne font jamais éclater le système, et elles ne font pas non plus appel à des éléments extérieurs au système. Autrement dit, les transformations du système conservent et développent l'invariance de la structure qui ne franchit jamais ses propres limites. Bon, je pense que ça va se clarifier. Mais ce sont les définitions essentielles. Alors, en définitive, on peut souligner les trois caractères de la structure. La structure a un caractère de totalité, c'est le système et ses lois propres par opposition aux éléments du système. La structure comporte des transformations. Ce système lui-même comporte des transformations internes. Mais ces transformations internes conservent le système qui demeure invariant. C'est l'auto-réglage de la structure qui ne débouche jamais sur autre chose qu'elle-même. Totalité, transformation, auto-réglage, ce sont les trois caractéristiques de la structure. Il faut signaler que la découverte de la structure débouche en principe sur une tentative de formalisation de cette structure, formalisation qui peut soit être directe sous la forme d'équations logico-mathématiques, ou formalisation indirecte par l'intermédiaire d'un modèle cybernétique. Mais il faut souligner que pour le structuralisme, la formalisation, c'est l'œuvre du théoricien, tandis que la structure, elle, est conçue comme indépendante du théoricien. Par conséquent, on ne peut pas assimiler purement et simplement structuralisme et formalisme, même si on est bien obligé d'en constater les convergences. Par exemple, Trubetskoy était à la fois l'un des maîtres de la linguistique structurale, le fondateur de ce qu'on appelle la phonologie, et en même temps un maître du formalisme russe, une école de critique littéraire, dans le même temps. Je vais revenir deux secondes sur la notion de totalité dans la structure. Il faut préciser la notion de la totalité structuraliste. Il ne s'agit pas d'une association cumulative d'éléments. Le tout est composé d'éléments, mais ceux-ci sont subordonnés aux lois du système. C'est-à-dire que les lois de composition du système confèrent au tout, en tant que tel, des propriétés d'ensemble qui sont distinctes de la propriété des différents éléments. Donc, la totalité structuraliste n'est pas une simple association cumulative d'éléments. Mais il ne s'agit pas non plus de ce qu'on appelle une totalité émergente, comme dans la sociologie d'Auguste Comte ou dans la sociologie de Durkheim. Lorsqu'on parle de totalité émergente, ça veut dire que le tout est antérieur ou contemporain au contact de ses propres éléments. Pour le structuralisme, ce qui compte, ce n'est ni l'élément, ni un tout qui s'imposerait comme tel en dehors de ces éléments, mais les relations entre les éléments. Le tout, c'est quoi? C'est le système des relations entre les éléments, c'est-à-dire les procédés ou les processus de composition du système. Le tout est la résultante de ces relations, des compositions dont les lois sont celles du système. Voilà ce qui est spécifique de la totalité structuraliste. Alors, sur le plan philosophique, le structuralisme débouche sur une alternative. C'est le problème de savoir si la totalité comporte une formation ou pas. C'est-à-dire si la structure comporte une genèse sans structure, c'est-à-dire que la théorie de la genèse, ça serait la théorie de la naissance des différents éléments qui vont composer la structure. Ça, c'est la première alternative. La deuxième alternative, c'est la structure est-elle au contraire toujours déjà préformée, c'est-à-dire est-elle tout simplement intemporelle. Alors sur ce point capital, on peut dire que le structuralisme paraît osciller entre ces deux solutions, c'est-à-dire entre une solution empiriste, genèse empirique des éléments du système, et la deuxième solution qui nous mène sur le terrain des essences transcendantales de la philosophie idéaliste classique. Alors on retrouvera cette question plus tard, mais je pense que ça s'éclairera. Là pour l'instant j'essaie de donner une définition générale et je vais vous dire que j'ai eu du mal. Alors pour éclairer un peu, tout le monde d'ailleurs ne saisira pas les mêmes choses parce que ça dépend de la formation des uns et des autres, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que le structuralisme, disons dans un certain nombre de disciplines, en mathématiques, en logique et en physique d'abord, puis en linguistique, puis dans les sciences sociales. Alors d'abord, dans les mathématiques, la logique et la physique. J'ai dit tout à l'heure que l'idéologie structuraliste avait dû son envol, son succès, à son application dans les sciences sociales. Son application dans les sciences sociales vient elle-même de son succès dans la linguistique. On peut dire sans exagérer, même si c'est un peu schématique, que le structuralisme, c'est l'idée selon laquelle le modèle de la linguistique est le modèle fondamental de toutes les sciences humaines, c'est-à-dire que toutes les sciences humaines doivent fonder leur méthodologie sur les mêmes principes que la linguistique. Donc ce qui est important pour expliquer l'idéologie structuraliste, c'est essentiellement la linguistique et son application dans les sciences sociales, dans les sciences humaines. Bon. Mais ce n'est pas une raison pour négliger les autres aspects du structuralisme, en particulier en mathématiques, en physique et en logique, qui sont d'ailleurs souvent antérieurs au structuralisme en linguistique, et qui ne sont pas non plus sans importance sur le succès du structuralisme, dans la mesure où on peut déceler une sorte de convergence générale entre, disons, les sciences exactes, traditionnelles, mathématiques, physiques, etc., la linguistique et les sciences sociales. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, dans le côté scientiste de l'idéologie structuraliste. Alors bien entendu, là, quand je parlerai du structuralisme dans les différentes branches, je serai forcément schématique et incomplet, c'est évident. Alors en mathématiques, il faut dire un mot de la notion de groupe, découverte par Galois et qui a peu conquis toutes les mathématiques du XIXe siècle. C'est d'autant plus important que c'est cette algèbre générale, c'est ça que ça s'appelle, qui nourrit l'anthropologie de Lévi-Strauss. Alors qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Un groupe, c'est un ensemble d'éléments en mathématiques, par exemple les nombres entiers positifs et négatifs, réunis par une opération de composition, par exemple l'addition. Opération de composition telle que, appliquée à des éléments de l'ensemble, elle redonne un élément de l'ensemble. On peut constater qu'il y a totalité, système de transformation et auto-réglage. Et c'est ça le fondement de l'algèbre générale. Et on sait son importance, l'importance de ses applications en physique. Alors, il faut noter d'ailleurs qu'il s'agit là, quand on parle de cette structure du groupe, d'une abstraction réfléchissante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tirée d'un objet, mais des actions qu'on peut exercer sur eux, réunir, ordonner, mettre en correspondance. Alors il faut aussi remarquer que la structure du groupe est un instrument essentiel de cohérence. On peut relever trois principes fondamentaux dans cette affaire. La possibilité toujours ouverte d'un retour au point de départ, c'est-à-dire une réversibilité des transformations, qui correspond au principe de non-contradiction. Deuxième aspect, mais je ne l'expliquerai pas, Rotilé l'expliquera tout à l'heure si vous voulez absolument des explications là-dessus. La permanence d'un élément neutre, ici c'est le zéro. Et troisièmement, le point d'arrivée est toujours indépendant du chemin parcouru. Alors en ce sens, cette théorie de la structure du groupe met l'accent sur la cohérence et ça n'a a priori strictement rien à voir, ça me paraît même le contraire, l'opposé magistral de la dialectique historique. Où le but n'est pas indépendant du chemin parcouru, où le temps n'est pas irréversible, etc., etc. Mais le structuralisme en mathématiques a été beaucoup plus loin avec la théorie des structures mères de Bourbaki. Pour Bourbaki, il y a trois structures mères irréductibles qui permettent de regrouper toutes les mathématiques. Il y a les structures algébriques, les structures d'ordre et les structures topologiques. On peut déduire toutes les autres structures mathématiques à partir de ces trois structures mères, soit par combinaison de deux structures, par exemple on peut parler de topologie algébrique, soit par différenciation, c'est-à-dire en définissant des axiomes limitatifs qui introduisent la notion de sous-structure. Alors évidemment il se pose une question, c'est de savoir si ces structures mères, cette architecture des mathématiques, si ces structures mères sont formelles ou naturelles. Alors, aujourd'hui, ce problème est relégué par l'invention des catégories de MacLane et d'Eilenberg, parce que la notion de catégorie n'est pas axée sur les structures, mais sur les procédés mêmes de mise en relation, c'est-à-dire que les structures ne sont pas des êtres, mais des processus formateurs. Bon, je ne vais pas insister sur le structuralisme en mathématiques, j'espère simplement que s'il y a des mathématiciens parmi vous, vous aurez peut-être une petite idée de ce que peut être la structure. Pour ceux qui ne sont pas mathématiciens, vous avez dû strictement rien y comprendre. Alors, en matière de logique, il y a quelque chose de comparable aux structures mères de Bourbaki, c'est la théorie des structures authentiques de la logique de Boulle. Mais il faut noter aussi que cette théorie est quelque peu remise en question aujourd'hui par les théories de Kurt Gödel. Kurt Gödel note que pour achever une théorie, dans le sens de la démonstration de sa non-contradiction, il ne suffit pas d'analyser ses présuppositions de départ, il devient nécessaire d'élaborer la théorie suivante. Autrement dit, la formalisation rencontre toujours une frontière. C'est ce qu'on appelle la frontière vicariante de la formalisation, c'est-à-dire qu'elle est mobile. Autrement dit, il y a une pyramide de structures hiérarchisées et cette pyramide, elle est suspendue à son sommet. Cette théorie conduit surtout, parce que ça c'est assez compliqué, mais la deuxième conséquence est plus simple, cette théorie conduit surtout à penser que la formalisation d'un contenu est toujours limitée par la nature de ce contenu. Alors en physique, la notion de structure s'est affirmée avec la recherche des extrêmement grands, des extrêmement petits, qui a fait passer, disons, la physique de l'idée de mesure à l'idée de structure. Et en physique, on se trouve face à une question philosophique très troublante, c'est celle de la correspondance entre les structures physiques indépendantes de nous et nos structures opératoires qui permettent de les représenter et de les comprendre. On se trouve face au problème troublant de l'harmonie qui existe entre les opérateurs humains et les objets opérateurs. Alors c'est là qu'a surgi l'idée d'un structuralisme biologique qui serait la clé de ce problème, dans la mesure où l'organisme est à la fois un système physico-chimique et la source des activités du sujet, c'est-à-dire qu'on pourrait y trouver le principe de l'harmonie entre les objets opérateurs et les opérateurs humains. Mais il faut bien dire que, pour l'instant, le structuralisme en biologie n'est qu'en voie de formation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Alors venons-en maintenant au structuralisme en linguistique. C'est surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le développement de la logique, de la linguistique structurale qui est à l'origine du structuralisme en tant qu'idéologie. C'est lui qui a le plus influencé les sciences sociales actuelles. Alors, on va parler surtout du structuralisme linguistique à ses débuts, c'est-à-dire celui de Ferdinand de Saussure, un structuralisme qui était essentiellement synchronique et statique. Alors vous verrez ce que ça veut dire, synchronique. Ce qui fait la langue, c'est essentiellement un système, et ce système, c'est le système des lois d'équilibre qui retentissent sur les différents éléments du système, quel que soit le moment de l'histoire où on théorise. C'est pour ça qu'on parle de synchronie, parce qu'on s'intéresse non pas au développement de la langue, mais à sa structure actuelle, au système qui fait qu'une langue est une langue, un équilibre, un jeu de lois d'équilibre qui régit les relations entre les différents éléments de cette langue. Alors, l'ensemble des significations constitue un système à base d'opposition et de distinction. Les significations sont toujours relatives les unes par rapport aux autres. Et puisque ces relations sont interdépendantes, on peut dire que ce système est un système synchronique. Il faut distinguer, par conséquent, les lois d'équilibre et celles du développement. Il faut distinguer synchronie et diachronie. Synchronie, c'est les lois d'équilibre. Diachronie, c'est les lois de développement. Parce que les lois de synchronie de la structure actuelle sont indépendantes de l'histoire. Par conséquent, il faut séparer les deux points de vue. Saussure, d'ailleurs, s'inspirait essentiellement à l'époque de l'économie politique bourgeoise vulgaire de son temps, qui insistait essentiellement sur ce point de vue de la synchronie. En particulier, il s'inspirait de l'économie politique de Valras et de Vilfredo Pareto. Enfin, il y avait d'autres raisons qui le poussaient à séparer radicalement le problème de la synchronie des lois d'équilibre et le problème de la diachronie des lois du développement, et même à ignorer la deuxième partie du problème, c'est-à-dire les lois de développement, la diachronie, parce que Saussure voulait fonder la linguistique, et pour y parvenir, il voulait la libérer de tous les éléments qui lui étaient étrangers, pour s'en tenir exclusivement au caractère interne du système que forme une langue, c'est-à-dire ne pas s'occuper de son histoire et des éléments extérieurs à la langue. Cette optique statique s'explique aussi par le fait que le signe dans la langue est arbitraire. Le signe verbal, en effet, est conventionnel. Le mot désigne un concept, mais il n'a aucun rapport avec le contenu de ce concept. Et ça, la multiplicité même des langues, des différentes langues, l'atteste. Il n'y a pas de rapport entre le mot qui désigne un concept et le contenu de ce concept. Il en irait, alors c'est justement, le problème serait différent si les structures ne concernaient pas les signifiants, les signes, mais les signifiés eux-mêmes, c'est-à-dire le contenu. Parce qu'il faudrait que les réalités elles-mêmes portent en elles leur pouvoir normatif. C'est-à-dire qu'il faudrait s'intéresser au problème de l'histoire, parce que la norme, pour être obligatoire, doit avoir une histoire qui est dirigée par ce but. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un système conventionnel, où il n'y a pas de rapport, sauf arbitraire, entre le signifié, et, c'est-à-dire le contenu, et le signifiant, eh bien on peut s'occuper exclusivement du problème des lois d'équilibre dans le système des signes, sans s'occuper de l'histoire. Ce qui ne serait pas le cas si on avait à s'occuper du contenu, parce qu'il faudra encore expliquer pourquoi le contenu garde sa valeur de norme. Alors pour Saussure, l'histoire peut être considérée comme une suite de changements de signification qui sont sans autre rapport entre eux que la nécessité de répondre aux besoins d'expressivité des systèmes synchroniques successifs dont le mot fait partie. C'est-à-dire que la seule chose à étudier, la seule chose à comprendre, ce sont ces systèmes synchroniques successifs dont le mot fait partie. Alors cette linguistique s'est développée avec Bloomfield. Elle a trouvé une nouvelle forme d'étude avec la phonologie grâce à Troubetskoy. Ce structuralisme s'est affiné avec le système des éléments différentiels de Jacobson. Et il a trouvé un nouveau développement avec la glossématique de Yamsleyev. Mais aujourd'hui, le structuralisme linguistique se pose de nouvelles questions, en particulier avec deux théoriciens qui sont Harris et Chomsky. Avec Harris et Chomsky, le structuralisme n'est plus seulement statique, il devient transformationnel, c'est-à-dire que Harris et Chomsky essayent de résoudre le problème des transformations successives du langage, et aussi parce que Chomsky plus exactement, débouche sur une curieuse philosophie de sa propre expérience scientifique. Chomsky s'intéresse à la genèse des structures, et il l'explique par le fait que chacun disposerait en lui-même de ce qu'il appelle une grammaire génératrice, d'un code génétique qui lui permettrait d'inventer la langue en s'exprimant ou en l'entendant. Et curieusement, il rattache cette grammaire génératrice à l'idée d'une raison innée, à la manière de Descartes. C'est-à-dire que bien qu'il aborde la question du changement, la question des transformations des langues, d'un point de vue structuraliste, on voit qu'en définitive, ça débouche sur une théorie relativement fixiste. La loi de ces changements est inscrite dans quelque chose de suprahistorique qui serait une raison innée. Mais il y a une autre leçon du structuralisme que les sciences sociales retiendront dans leur ensemble, c'est l'idée de discontinu, le rejet d'une histoire continue évolutionniste. Le discontinu est lié à l'idée d'invariance de la structure. Deux structures successives dans le temps sont irréductibles l'une par rapport à l'autre. Les transformations de la structure, d'une structure, sont purement internes et ne franchissent jamais le seuil d'invariance de la structure. Par conséquent, il n'y a aucune filiation possible entre une structure et une autre. Il y a discontinuité radicale. Il n'y a pas d'évolution continue d'une structure à une autre. Alors maintenant, on en vient au structuralisme dans les sciences sociales, c'est-à-dire principalement à l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss. Alors, il faut d'abord dire comment elle est née. Elle est née de la rencontre aux États-Unis entre Lévi-Strauss, anthropologue, et le linguiste Roman Jakobson. Lévi-Strauss a adopté carrément la méthode de la phonologie de Jakobson pour étudier les systèmes de parenté, les relations, les différents systèmes de parenté. Pourquoi a-t-il importé la méthode de la phonologie linguistique pour étudier les relations de parenté? Eh bien, à cause de ce qui rassemble les deux objets. C'est ce qu'on appelle, en langage technique, on appelle ça à cause de l'isomorphisme qui caractérise les deux objets. En effet, la ressemblance entre les deux objets de recherche, les relations de parenté d'une part, la langue d'autre part, fonde l'idée d'adopter une méthode comparable. Dans les deux cas, on a affaire à la communication sociale. Avec les rapports de parenté, en effet, la communication sociale dont il est question, c'est l'échange, la circulation des femmes, qui détermine les rapports entre les groupes humains. Alors, pas plus que le sujet parlant ne connaît les lois de la phonologie pour communiquer avec les autres, ou les lois de la grammaire, le sujet des différents comportements concernant la parenté ne connaît l'ordre caché, les mécanismes possibles d'échange des femmes, l'ordre des différents systèmes de parenté possibles. En distinguant deux mécanismes différents, l'échange des femmes, l'échange restreint et l'échange généralisé, Lévi-Strauss en est arrivé à un véritable tableau systématique de tous les systèmes possibles, qu'ils aient existé ou non, des rapports de parenté, c'est-à-dire à une combinatoire des relations de parenté qui ressemble assez fort au tableau des éléments chimiques de Mendeleïev. Et pour formaliser ces structures, il a utilisé des structures algébriques de réseau de groupes de transformation qu'il a pu mettre en œuvre grâce à l'aide de mathématiciens qui sont Guilbeault et Weyl. Alors, il ne s'est pas contenté d'appliquer ça aux relations de parenté. Il a ensuite appliqué cette méthode à l'étude de la pensée mythique. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, on se retrouve avec une pensée qui n'est pas consciente de ses mécanismes. Et l'étude des structures mentales inconscientes abolit la différence qui peut exister entre l'humain et le naturel, du point de vue de la science. Et ça permet de conserver le dualisme de la méthode des sciences exactes entre l'observateur et l'objet observé. C'est-à-dire que ça permet de dépouiller la science du vécu et de la conscience. L'objet, c'est la pensée objectivée, où culture et nature deviennent tout à fait comparables. Alors, il existe une philosophie implicite chez Lévi-Strauss, qu'un philosophe a appelé un quantisme sans sujet transcendantal. Et qui veut dire quoi? L'activité inconsciente de l'esprit, pour Lévi-Strauss, consiste à imposer des formes à un contenu. Et pour Lévi-Strauss, ces formes sont les mêmes pour tous les esprits, qu'ils soient anciens, contemporains ou futurs. L'activité de l'esprit, c'est un système de schémas. Tous les peuples, y compris les peuples primitifs, ont exactement les mêmes capacités, disposent du même système de schémas, mais simplement ils les ont exercées dans des directions différentes, en faisant des choix qui sont tout à fait incomparables les uns entre les autres. Lévi-Strauss a opposé l'ethnologie et l'histoire. Pour lui, l'ethnologie, c'est finalement une psychologie. C'est l'étude des structures mentales inconscientes, qui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sont inhérentes à l'esprit humain et n'ont rien à voir avec l'histoire. C'est à l'ethnographie et à l'histoire d'étudier le reste, c'est-à-dire l'infrastructure, les rapports homme-nature. Mais il existe une différence d'essence entre les deux méthodes, celle de l'histoire et celle de l'ethnologie. L'histoire, pour Lévi-Strauss, n'existe que pour un sujet engagé. D'autre part, c'est-à-dire qu'il y aura une objectivité moindre. D'autre part, elle déploie l'éventail des sociétés dans le temps, alors que l'ethnologie déploie l'éventail des différentes sociétés dans l'espace. Pour lui, l'histoire est utile, mais à titre d'auxiliaire, de servante de l'ethnologie, parce que l'histoire permet d'inventorier l'intégralité des éléments d'une structure quelconque. Mais pour lui, l'histoire ne conduit par elle-même à aucune espèce d'intelligibilité. L'intelligibilité d'un système ne s'atteint que dans l'analyse structurale, dans l'analyse purement synchronique. L'histoire en tant que telle, c'est une succession aléatoire et nullement nécessaire de différents systèmes. D'autre part, la méthodologie n'est pas la même parce que l'ethnologie procède par construction de modèles et l'histoire procède par observation empirique. L'ethnologie fait appel à un temps mécanique réversible et non cumulatif, qui s'oppose au temps statistique de l'histoire, qui est irréversible et orienté dans un but déterminé. Alors même si cette théorie ravale l'histoire à un degré inférieur de scientificité et au rôle de servante de l'ethnologie, il reste quand même apparemment une histoire possible. Cependant, par d'autres côtés, chez Lévi-Strauss, cette histoire devient impossible. Ainsi, par exemple, Lévi-Strauss distingue la pensée sauvage ou primitive, si vous voulez, et la pensée domestiquée moderne, scientifique. Mais pour lui, cette évolution ne représente pas des stades inégaux dans un procès en progrès, mais simplement deux modes de pensée différents, l'exercice d'un choix, qui n'a rien à voir, finalement, avec un développement progressif. Alors, dans la mesure où le structuralisme s'intéresse exclusivement aux structures mentales inconscientes, ou aux processus inconscients, et aux systèmes, et dans la mesure où elle est polarisée sur la séparation point de vue synchronique et du point de vue diachronique, sur l'opposition de méthode entre la synchronie et l'histoire, on comprend mieux pourquoi maintenant la philosophie qui émane du structuralisme se dit à la fois anti-humaniste et anti-historiciste. Alors je crois que vous allez beaucoup mieux comprendre maintenant qu'on va parler de la structuralisation du marxisme. Et les marxistes s'expliquent quelquefois plus simplement, et puis que vous connaissez mieux en général, malgré les lacunes, le marxisme que le structuralisme.